Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posé à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Jésus le leur avait annoncé, mais ils n'avaient pas compris. Je pense que nous serions probablement dans la même situation nous-mêmes. Ils n'avaient pas compris que Jésus allait ressusciter d'entre les morts. Et au moment où cet épisode nous est raconté, j'imagine qu'ils étaient sous le choc de la passion qui était toute récente et de la mort de Jésus sur la croix. Épouvantable fin d'une aventure de 3 années. Et cependant, voici qu'il y a du nouveau, et Saint Jean agence son chapitre 20 de son évangile en ciblant des personnes précises dans leur démarche de foi, au fond. Il y a évidemment Marie-Madeleine, on l'a entendu, il y a Pierre, il y a Jean, mais si on poursuivait la lecture, on le fera dimanche prochain, il y a aussi Thomas. Et ces personnes sont autant de facettes d'une sorte de progression vers l'ouverture à la foi en Jésus ressuscité. Prenons le cas de Marie-Madeleine, par exemple. Ici, on ne nous parle pas des autres femmes, mais elle est seule à venir au tombeau. Et au fond, c'est une personne qui, manifestement, aux yeux des évangélistes et de Jean en particulier, a une place toute spéciale, car elle n'est mentionnée que 2 fois dans l'évangile de Jean, mais à chaque fois, elle est à côté de Jean, précisément, en présence de Jean, Jean le disciple bien-aimé. Et elle est à la croix et elle est au tombeau vide. Et c'est à elle que Jésus, et ça c'est encore un peu plus tard dans le récit, c'est à elle que Jésus va se manifester en lui donnant ce message « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». Message qu'elle va aller porter aux disciples qui ne voudront pas la croire, mais qui lui a valu le nom, le surnom d'apôtre des apôtres. Et Marie-Madeleine est ainsi celle qui, la première, est confrontée à cette question en forme de point d'interrogation, mais que se passe-t-il ? Alors elle va patauger dans un certain nombre d'hypothèses en pensant que là, ce type qui est par là, c'est le jardinier, et puis que sûrement, au fond, on a volé le corps de Jésus. Sûrement, il y a eu une effraction de la tombe, une profanation, et on a volé le corps de Jésus. Et on est comme en écho par rapport à ce que nous entendions hier soir dans l'évangile selon saint Matthieu, à savoir que des gardes avaient été posés au pied du tombeau pour le garder, mais qu'au fond, c'est eux qui se sont retrouvés morts devant la pierre roulée et le vivant. Un deuxième personnage qui est souligné par le récit, c'est Pierre, évidemment. Pierre qui, suite à ce qu'a dit Marie-Madeleine, va se rendre au tombeau avec Jean, et on nous les montre en, non pas en compétition, mais enfin, il y a un petit peu de ça. Et en tout cas, évidemment, probablement que Jean est plus jeune que Pierre, et Jean nous est présenté souvent comme quelqu'un de speed, comme on dirait aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est lui qui arrive le premier au tombeau, c'est lui qui croit le premier, c'est lui qui, au chapitre 21, va, concernant cet homme qui est sur le rivage, avoir tout de suite le pressentiment que c'est Jésus ressuscité. C'est quelqu'un qui est vraiment situé au niveau d'émotions de l'Esprit-Saint et du cœur et qui laisse la foi s'épanouir en son cœur. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il pour Pierre ? Il a la tête en forme de point d'interrogation, il voit les linges posés à plat, les bandelettes, toutes des choses qui sont bien rangées, comme c'est étonnant. Enfin, c'est quelque chose qui est souligné pour nous dire que manifestement l'hypothèse qu'on aurait volé le corps de Jésus est parfaitement idiote puisqu'on a trouvé les linges qui entouraient le corps de Jésus qui était resté au tombeau. Et si on avait volé le tombeau, il ne serait pas là, évidemment. Mais voilà, voici que c'est surtout le troisième personnage, Jean, qui nous est présenté comme l'exemple même de la foi, à savoir qu'il n'a pas besoin de s'appuyer sur les Écritures. Il n'avait pas encore compris que d'après les Écritures, Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Il n'a pas besoin de s'appuyer sur les Écritures et il suffit pour lui de constater, de voir, de reconnaître la présence du ressuscité à travers l'absence. Et pour lui, le bandelette et les linges funéraires sont le signe évident que Jésus est ressuscité. Il sait donc lire les signes avec les yeux de la foi, ce qui nous manque quelquefois quelque peu cruellement, savoir lire les signes que Dieu nous envoie avec les yeux de la foi. Non pas les surestimer, parce qu'il y a des personnes qui voient des signes partout, c'est un peu agaçant, mais savoir quand même accueillir la parole que Dieu nous adresse à travers les événements concrets dans la vie quotidienne. Alors, ce récit de Jean, et nous avons besoin de les lire et de les relire, je vous propose cette semaine de faire l'effort de prendre le temps de lire les évangiles qui nous sont proposés pour les messes de semaine et qui ne sont que des récits, des apparitions de Jésus ressuscité. Parce que nous, chrétiens, nous avons besoin vraiment de les connaître, de les pénétrer, de les méditer et à partir de là, de nous forger une conviction personnelle à défaut peut-être d'une expérience personnelle du ressuscité. Je disais hier soir que j'avais entendu l'archevêque de Paris dire qu'il était frappé de ce que les lettres des catéchumènes, il y a 3 ans, soulignaient à quel point, au fond, ils ressentaient un vide et qu'ils avaient besoin de le combler en cherchant du côté de Dieu, et à quel point maintenant les lettres qu'ils recevaient faisaient souvent état d'une expérience personnelle vécue par ces personnes qui disaient « si je demande le baptême, c'est parce que je crois vraiment et je l'ai expérimenté que Jésus est ressuscité. » Alors si nous n'avons pas nous-mêmes une expérience personnelle, du moins devons-nous nous forger une conviction personnelle et pour cela nous avons besoin de lire et de relire et de méditer ces passages de l'Écriture et ainsi de pouvoir avoir une sorte d'argumentaire, si j'ose dire, non pas tellement dans un sens apologétique, c'est pas tellement ça la question, mais de pouvoir répondre à ceux qui ne savent pas quoi penser, de pouvoir leur dire, leur partager, car c'est bien nous qui, aujourd'hui, sommes les témoins de cette bonne nouvelle, Jésus est ressuscité.